L'invité de Radio Prévert aujourd'hui, c'est Isabelle Sévère. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être disponible pour répondre aux questions de Radio Prévert. Pour vous présenter aux auditeurs, juste dire que vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts Sarthe. Merci encore une fois d'être avec nous en un moment où on entend beaucoup parler d'écologie et ça tombe bien, vous vous donnez 150 jours pour construire un nouveau mouvement écologiste. Alors, comment est venue l'idée de vous lancer dans cette marche-là pour la construction de ce nouveau mouvement écologiste ?
Bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on le voit depuis très longtemps, c'est que, en fait, on mesure l'importance des gens qui ont une conscience écologiste, qui font dans leur vie quotidienne plein de gestes écologistes. Et la difficulté qu'on a, c'est aujourd'hui fédérer l'ensemble, je vais dire, de la galaxie du peuple des écologistes en France. Ce que Dufour, c'est ça, appelait la classe écologiste, qui existe en fait, mais qui est pas fédérée. Et donc l'idée, c'est que nous, on est un parti dont le but est bien entendu d'aller au pouvoir, hein, d'accéder au pouvoir, que ce soit dans les organisations locales ou nationales. Et on a bien conscience qu'il y a plein de gens qui sont écologistes mais qui n'ont pas du tout envie d'adhérer dans un parti comme le nôtre, et c'est tout à fait légitime de respecter cela. Mais l'idée, c'était quand même de fédérer l'ensemble de ce peuple de l'écologie, on va l'appeler comme ça, qui est très varié mais qui est présent autour de nous. Ça peut être les grands-parents qui sont inquiets pour leurs petits-enfants, ça peut être l'agriculteur qui essaie de réduire au maximum les intrants chimiques, ça peut être le cycliste dans une ville qui se bat pour avoir plus de pistes cyclables. Donc tous ces gens-là, vous voyez, ce sont des gens qu'on pourrait essayer de fédérer. Donc l'idée, c'est dans ces 150 jours de remonter en fait ce que ressentent en fait les gens qui ne sont pas adhérents au parti politique et qui voudraient quand même un vaste mouvement de l'écologie politique. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée, c'est comment on prend la parole, on écoute la parole de l'ensemble de ces personnes qui sont sensibles à l'écologie et qui pour autant ne sont pas adhérents à un parti politique. Voilà, et donc c'était ça un peu l'idée, et de voir à travers la restitution sur tous les territoires et à travers le questionnaire qui est fait également sur le site, à travers les cahiers de doléances qui sont proposés, qu'est-ce qui ressort ? Quelles sont les attentes autour d'un grand mouvement d'écologie politique ? Voilà, c'était ça un peu l'objectif.
Alors, Isabelle Sévère, cette initiative passe forcément par des actions concrètes. Et justement, il y avait le samedi 24 juin 2023 à la Maison de l'eau, à l'Arche de la Nature, au Mans, un pique-nique. Et ce pique-nique, vous y avez convié des Sartois et des bonnes volontés, j'ose dire, qui voudraient s'associer à cette démarche dont vous parliez à l'instant. Et comment cela s'est-il déroulé ?
Alors ça s'est passé d'abord sous un très beau soleil estival, donc ça c'était très agréable, au bord de la rivière. Et donc effectivement, le matin, c'était fait en deux parties en fait. Le matin, il y a eu le bilan des élus écologistes de la ville du Mans qui avaient choisi ce samedi pour le faire de 10h à midi. Et puis ensuite, on a enchaîné pour ne pas mobiliser les gens plusieurs fois pendant le mois de juin. Et c'est vrai que c'est déjà compliqué le mois de juin pour mobiliser les gens. Et du coup, on a enchaîné par un pique-nique convivial et par un atelier où il y avait une vingtaine de personnes en fait, et avec des adhérents, des non-adhérents. Mais c'était aussi intéressant d'avoir le point de vue des adhérents, parce que c'était aussi intéressant de voir ça. Et la question qu'on a posée en fait, c'était aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque pour que l'écologie politique devienne un mouvement puissant? Voilà. Et donc en fait, on a fait un tour de parole, et il y a eu plein de choses qui sont ressorties évidemment de ce tour de parole, avec des visions assez différentes du rôle d'un parti politique d'ailleurs. Et voilà, donc c'était en fait un atelier pour contribuer à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire aux états généraux de l'écologie. Là, on a remonté la parole en fait des personnes qui étaient présentes et qui avaient un avis sur l'écologie politique et qui ont donc donné leur point de vue, que je vais d'ailleurs moi restituer au niveau du national via le questionnaire qui m'a été donné.
Vous n'avez pas encore eu le temps de faire la synthèse, est-ce que...
J'ai fait la synthèse, ça y est, oui, j'ai fait la synthèse. Et vous voulez que je vous dise deux ou trois éléments qui sont ressortis ?
Merci.
Bah, en fait, ce qui est ressorti beaucoup, c'est tout ce qui est lié à la stratégie et à la structuration du mouvement. En fait, ce qui est beaucoup ressorti dans les prises de parole, c'était ça. C'est d'être, comment est-ce qu'on peut être mieux organisé, comment on peut mieux se structurer pour accéder aux institutions. Ça, c'était vraiment l'enjeu. Et puis après, il y avait il y avait des visions un peu différentes. Il y avait aussi beaucoup de choses autour du besoin d'un leader un petit peu charismatique, ce qui n'est pas forcément dans l'ADN des écolos d'ailleurs, mais d'avoir quelqu'un qui soit identifiable sur le temps long, parce qu'en fait, beaucoup disaient qu'on manquait d'incarnation. Au niveau notamment national, mais aussi à différents échelons, hein, que ce soit au niveau régional ou local. Et puis, il y avait aussi des gens qui avaient une vision assez différente du parti politique. Par exemple, certains disaient « Ah bah oui, mais en fait, nous, il faut qu'on s'associe aux luttes locales, par exemple, associatives, pour faire avancer les choses. » Et puis d'autres disaient « Ah bah non, le but d'un parti politique, c'est pas une association, on n'est pas un think tank, on n'est pas une association, et nous, notre but, c'est de mettre en place des stratégies pour accéder au pouvoir et aux institutions, qu'elles soient locales ou nationales. » Voilà. Donc, vous voyez, il y avait des points de vue assez différents. Voilà, donc c'était ça un peu qui est ressorti. Montrer qu'il fallait aussi qu'on s'arrête, enfin, il faut qu'on arrête d'être dans une forme, des fois, de donneur de leçons. Des fois, on est perçu comme étant donneur de leçons. Des fois, on est perçu comme étant pas assez constructif parce qu'on s'oppose trop. En fait, il faut davantage accompagner les gens. Je pense notamment, c'est vrai, au monde de l'agriculture. Les agriculteurs, souvent, nous perçoivent comme des adversaires, alors que on est là pour les accompagner et faire émerger une agriculture différente de l'agriculture productiviste, par exemple. Donc, en fait, il y a tout un travail, je pense, à faire dans le monde rural, parce qu'on a des propositions sur l'eau, sur un autre type d'agriculture, où d'ailleurs les paysans seraient nettement moins, je dirais, asservis à un système qui les endette et qui les met dans une situation compliquée, quoi, pour la plupart.
Alors, très bien. Alors, Isabelle Sévère, vous avez commencé à anticiper la question que je m'apprêtais à vous poser, justement, sur vos principaux défis et les opportunités que vous identifiez pour faire émerger ce mouvement écologiste plus populaire, si j'ose dire.
Tout à fait. Non, mais c'est un véritable enjeu. Les défis qu'on a à relever, je pense que c'est effectivement de faire comprendre par un récit positif que l'écologie, c'est pas une punition, que l'écologie, c'est pas de la contrainte, que l'écologie, c'est tout simplement vivre mieux ensemble, de manière plus solidaire. Donc ça, c'est un enjeu très important au niveau de notre récit, je pense, de faire passer ce message. Et que l'illusion aujourd'hui, c'est de croire qu'on va pouvoir continuer comme aujourd'hui, parce que ça nous emmène dans le mur. Et donc, en fait, nous, la vision, la société qu'on propose, c'est une société qui est pas... Enfin, je veux dire, c'est pas l'écologie, c'est pas prendre des douches froides dans le noir à 5 heures du matin. Hein, c'est pas du tout ça. Donc, en fait, il faut qu'on fasse comprendre aux gens que l'écologie, c'est un projet de société qui est plutôt, joyeux d'une part, et puis qui ne nous enlève pas des choses, qui va nous permettre au contraire de mieux vivre ensemble, quoi. En fait, c'était ça un peu ça. Je pense l'un des principaux enjeux. Je pense qu'on a un enjeu aussi d'être beaucoup plus proche de certains territoires, que ce soit les quartiers, par exemple, où on est quand même peu présent. On a un enjeu aussi sur les territoires ruraux et périurbains, où on est peu présent, je pense, pas assez en tout cas, parce qu'on est quand même essentiellement pour aujourd'hui un mouvement implanté dans les villes et dans les grosses villes. Et on touche aussi, je pense, des catégories socio-professionnelles un peu privilégiées. Et ça, je pense que c'est vraiment un enjeu pour nous de parler à tout le monde, parce qu'on sait aujourd'hui que les plus fragiles, les plus modestes sont les plus impactés par les problèmes liés notamment au dérèglement climatique. C'est souvent eux qui ont les logements les moins bien isolés, ce sont souvent eux qui ont les plus vieilles voitures, les plus polluantes, ou ce sont souvent eux qui n'ont pas de voiture et qui doivent du coup bénéficier des transports alternatifs. Voilà, donc en fait, on a, je pense, vraiment un enjeu de faire comprendre cela. Et puis, on a aussi, je pense, un véritable enjeu, comme je disais tout à l'heure, de structuration au niveau national de notre mouvement, quoi. Si on veut vraiment arriver aux manettes, il faut qu'on se structure davantage.
Alors, question que je ne vous ai pas posée de façon très simple, pourquoi 150 jours? Est-ce qu'il y a un enjeu tenant au calendrier?
Alors, en fait, le calendrier, il a été revu un peu, hein, suite à, vous savez, au mouvement sur les retraites. Là, normalement, on a jusqu'à fin juin, enfin, en gros, pour faire l'ensemble des ateliers sur le territoire. En juin, d'ailleurs, il y a eu les premiers tirages au sort, vous savez, pour participer ensuite aux conférences citoyennes qui auront lieu à partir de septembre et qui mèneront à la convention de refondation. Et là, en juillet-août, ça va être un petit peu l'occasion pour le prestataire que nous avons eu pour faire cette démarche de dépouiller les résultats. Et à propos, je vous dis quand même que au niveau du calendrier, le tirage au sort a déjà eu lieu dans les territoires pour tirer au sort les gens qui vont participer à cette conférence citoyenne et à cette convention. Et il y en a une en Sarthe, hein. Il y a une jeune femme qui a été tirée au sort en Sarthe, qui avait répondu au questionnaire. C'est Cécile Agrapard, elle habite à La Suze, et c'est donc elle qui ira en septembre participer à ces réunions de travail.
Merci pour l'annonce donc du nom de cette Sartoise qui ira participer à ce travail de co-construction, si j'ai bien entendu ce que vous dites.
Tout à fait, c'est ça.
Alors, on va faire également un état des lieux plus général, plus macro, comme on dit. Votre analyse de la situation environnementale et sociale, vous y faisiez allusion aujourd'hui. C'est vrai que ce sont les premiers de cordée, comme on disait il y a quelques temps, qui sont durs impacté par cette situation, hein, inflation et aussi cette préoccupation environnementale qui ne leur échappe pas, mais voilà, comment faire justement pour concilier les impératifs de vie hein, au quotidien et puis aussi de se dire tiens, je me préoccupe de ma planète, de l'environnement, comment faire pour que ces planètes-là s'alignent?
Fin du monde, fin du mois, comme on dit, c'est ça.
Exactement.
Effectivement, oui, non, mais c'est un vrai enjeu. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est les politiques publiques qui doivent agir là-dessus, parce qu'on peut pas demander à des gens qui sont modestes, comme vous dites, qui souvent sont impactés par l'inflation, par la hausse du coût de la vie, hein, du coût de la vie, de à la fois dire on va changer de voiture, à la fois dire on va manger bio et à la fois dire on va isoler notre maison. Ça, c'est pas possible. Je veux dire, on peut pas demander ça aux gens et surtout on n'a pas à les culpabiliser de ne pas le faire. Donc en fait, c'est là que se mettent en place les politiques publiques d'aide et d'accompagnement. Et politique d'aide et d'accompagnement dans le cadre notamment des mobilités, c'est-à-dire faire du train du quotidien, ça c'est un enjeu fondamental pour que évidemment les gens qui habitent notamment à la campagne ou dans le périurbain puissent avoir une autre alternative que la voiture, donc développer le train du quotidien. Quand il n'y a pas de possibilité de travailler sur des transports alternatifs, ça peut être de l'autopartage, ça peut être du covoiturage, ça peut être éventuellement des bus qui peuvent être affrétés par les pouvoirs publics. Voilà, donc ça, ce sont des solutions qu'on peut mettre en place, mais qui n'ont pas été très anticipées, vous l'avez remarqué quand même. Donc il y a ça, il y a comment faire aussi pour simplifier l'accès aux aides pour rénover et isoler ces maisons, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même assez kafkaïen, je vous mets au défi d'aller comprendre quelles sont les différentes primes pour accompagner les gens, notamment les privés, les particuliers, pour changer leurs fenêtres, isoler leurs murs, c'est quand même assez compliqué, même s'il existe des dispositifs, mais ils sont pas du tout lisibles. Et puis c'est comment aussi on fait en sorte de faire en sorte que le bio soit accessible, par exemple, pour des familles modestes et qu'elles n'aillent pas toujours acheter finalement de la nourriture de pas très bonne qualité dans des supermarchés qui font du bas prix, quoi. Voilà, c'est un peu l'enjeu.
Exactement. Et puis il y a aussi un autre enjeu pour vous. Comment faire aussi pour que les jeunes puissent être partie prenante de ce travail-là? C'est un véritable enjeu à vos yeux?
Ouais, c'est un véritable enjeu, les jeunes, parce que les jeunes, en fait, on se rend compte que d'abord, c'est vraiment pas un groupe uniforme, comme d'ailleurs tous les groupes, c'est multiple. On a des jeunes qui sont extrêmement investis dans la lutte contre le réchauffement climatique, et Salomé Sacquet, qui vient d'écrire le livre là, Sois jeune et tais-toi, est vraiment très intéressant, parce qu'elle montre qu'on a une jeunesse qui est effectivement très investie, très mobilisée, mais on a aussi une jeunesse qui n'est pas du tout sensibilisée à ça, ou en tout cas est plutôt dans une forme d'individualisme, n'est pas du tout dans ces combats-là. Et puis on a surtout, de manière générale, un problème de participation électorale des jeunes, Et ça, c'est un véritable enjeu. Hein. Il faut vraiment que... Moi, je m'échine à le faire quand je vais voir des collectifs où il y a des jeunes, c'est-à-dire de leur dire, mais ce que vous faites est indispensable, engagez-vous dans vos collectifs, engagez-vous dans des actions concrètes, mais n'écartez pas non plus le vote, quoi. Les deux sont fondamentaux. C'est-à-dire qu'il faut à la fois s'engager dans des collectifs, y compris par de manière parfois un peu coup de poing. Et ça, on en a besoin, nous tous, d'être bousculés par ça. Mais en même temps, il faut voter. Il faut voter parce qu'autrement, bah, le vote sera, capturé par uniquement des personnes de plus de 50 ans. Et ce n'est pas les mêmes projets de société portés par les plus de 50 ans.
Vous n'imaginez voilà. pas comment...
J'incite vraiment les jeunes à se mobiliser à la fois dans les collectifs, mais aussi à voter pour qu'on puisse être le plus puissant possible dans les institutions.
Vous n'imaginez pas comment vous m'offrez une excellente transition pour la dernière question, Isabelle Sévère. J'allais vous demander votre ambition pour ce nouveau mouvement écologiste, puisqu'on sait qu'il va y avoir justement des rendez-vous électoraux. Celui qui arrive en septembre ne concerne pas toute la population, puisque c'est des élections sénatoriales qu'il s'agit. Mais en 2024, en juin, il y aura les élections européennes. Ambition alors ?
Ah, j'aimerais tellement qu'on fasse un super score aux européennes. Et je pense qu'on le fera parce qu'on a d'excellents députés européens qui font un énorme boulot et on voit l'importance d'ailleurs des écologistes au niveau du Parlement européen. On voit les directives qui ont été prises par l'Europe et qui impactent notre vie. Et c'est fondamental qu'on ait un score très très élevé, évidemment à deux chiffres et si possible plus élevé encore que les 14% qu'on avait fait la dernière fois, ça serait formidable. Si on pouvait atteindre 20%, ça serait quand même un très 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 beau pari, un très beau challenge quoi. Mais je fais confiance à nos parlementaires européens et à toute l'équipe d'Europe Écologie Les Verts et des écologistes en général pour faire grimper le score aux européennes, en espérant que les jeunes aillent se mobiliser pour ces élections qui sont si importantes et qui, je rappelle, sont à un seul tour et sont à la proportionnelle intégrale. Donc là, il faut aller voter aux européennes.
En tous les cas, Radio Prévert donnera la parole aux différentes formations engagées donc dans ces prochaines élections européennes. Et je pense que ça a presque déjà commencé avec vous ce matin sur Radio Prévert. On a été ravis d'avoir échangé avec vous sur ce nouveau mouvement écologiste que vous appelez de vos voeux. Isabelle Sévère, merci à vous.
Merci beaucoup pour cette interview, merci beaucoup.
Je vous en prie, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts en Sarthe, invité de Radio Prévert.